grands-parents l'avaient déjà, cette machine?
Absolument.
Ça, c'est pour vous, des machines comme ça, il y a des... Parce qu'on est, on est à l'échelle artisanale.
Oui, c'est les gens allemands, en batte. Il fait carrément 90% d'autoréfracteurs qui existent au monde. Alors c'est clair que ces modèles-là, ça c'est un 1955. Mais on a fait des équivalents tout électriques. Et ce qu'on utilisait beaucoup ici en Europe, il y a moins de 30 ans, sont beaucoup partis de nos pays du Sud.
Est tout simple, il y a un seul moteur qui entraîne tous les axes avec le système de pneus qu'on voit.
Donc le tambour qui ressemble un peu à une machine à laver avec des pales en plus qui permettent de passer. La ventilation qui est actionnée par le même moteur et puis le bras du panier refroidisseur qui va toujours faire un mouvement avec un système d'aspiration d'air pour qu'il refroidisse assez rapidement.
Remplissage par le haut.
Exactement.
Avec un petit escabeau.
Non, j'ai eu la chance de se passer assez grand.
Ah ouais.
Ça va.
Bien,
bonjour.
Bonjour madame.
Au fait, je vous ai téléphoné Durand. Oui, si je peux être en paquet.
Trois fois,
oui. Ouais, s'il vous plaît. Disponible.
Déménagement, c'est pour
quoi? Le nouvel endroit sera prêt.
Ouais.
Ça dépendra des obligations imposées par l'assurance incendie pour les nouveaux locaux. C'est une branche de vieille ferme et il y a trois mois de sécurisation.
Donc en fait, c'est un privé. C'est bien. Bah, je veux dire, c'est bien et en même temps,
c'est la moins mauvaise des solutions, voilà. On dirait plutôt.
C'est-à-dire que l'artisanat aujourd'hui, il a de la peine à trouver des locaux adaptés, des filles adaptées, tout ça. Vous avez vu des annonces ou vous êtes par bouche à oreille?
Je suis à bouche à oreille.
Parce que vous-même, vous habitez la région?
A priori. Dans les zones industrielles, en l'occurrence, où la Cléo Moigne, c'est. De bâtisses préfabriquées avec des boxes qu'on peut louer. Et c'est des tailles assez conséquentes sur deux étages, 2 x 60 m², parce que c'était beaucoup trop pour une petite machine pour moi.
C'est parce que c'est des loyers à prix importants.
Les premiers prix, oui, ça va dans les 1005, 1006 et au-delà.
Vous allez
on a une vérification visuelle de la couleur. En fait, c'est très difficile parce que vous voyez, il y a du reflet. Donc entre un brun moyen et un brun moyen fort, on verra pas forcément la différence. Et pour ça, on a la sonde ici qui permet de sortir quelques grains. Et alors là, toute la lumière, on va vraiment.
Okay. café.
Oui. Petit 250 grammes.
Ouais.
Mélange mes bon.
Oui.
Ça prend beaucoup de temps pour emmagasiner la chaleur, la fonte. Par contre, une fois que c'est chaud, alors, ça le reste un moment. L'efficacité est beaucoup plus grande après la deuxième, troisième machine. Donc le fer est bien chaud.
Vous en faites combien?
Entre 5 et 10. On dépend un peu de la demande.
On met 15 kg de café cuit. On en ressort que 13 de retour, 20% d'évaporation. Ce qui nous différencie de l'industrie qui compense cette perte de poids en le refroidissant avec de l'eau. Ce qui nous permet de garantir une bonne digestion. Parce qu'il n'y a pas d'oxydation.
Il y a des gens qui font mine de s'arrêter, qui s'emplissent les poumons, on ne sait pas de la porte, et qui partent avec un petit sourire.
C'est magnifique.
C'est super agréable. Hein.
C'est le bonheur gratuit.
Mais toujours est-il qu'au-delà du. Comment on va dire. De ces choses gratuites. On est confronté de l'autre côté, de la face plus sombre, de la même médaille, à une réalité économique. Ce qui fait qu'on ne peut pas vivre en emplissant de parfums de narines des gens.
Non.
Après, ce serait des raisons purement économiques, mais je ne ferais pas ce que je fais maintenant. C'est évident, à l'heure actuelle. Il y a tout un côté... spirituel, c'est peut-être un grand mot, mais le plaisir de faire plaisir, d'avoir des gens qui obtiennent du plaisir en consommant le fruit de notre labeur, ça n'a pas de prix. Et je dirais même qu'il faut bien ça, des commentaires positifs de la part des consommateurs, pour garder le cap et une certaine objectivité dans ce qu'on fait. Parce qu'on se rend bien compte, là, la marche économique du monde actuel, tout se concentre en hyperstructure. Tous les domaines deviennent hyper spécialisés. Ça a des conséquences. La majorité fonctionne en grosse structure. On se rend compte typiquement que pour entrer chez une grande surface, ils sont en train de faire du démarchage chez les petits, parce qu'ils se rendent compte que c'est un appel des consommateurs, donc ils vont remplir leur rayon de ce genre de produits. On est mis en face de contrats de 10 pages à 4 écrits en termes juridiques où on ne sait pas vraiment où on met les pieds. Parce qu'on n'a pas, nous, de service juridique au sein de notre entreprise qui permettrait d'éplucher et puis de comprendre
les aboutissants.
Donc on est en face d'un déséquilibre et puis on marche un peu à vue. Et puis ça, c'est en plus de nos activités quotidiennes. Donc on n'a pas non plus, les journées sont que 24 heures pour tout le monde. On ne peut pas se spécialiser dans chaque domaine dont on aurait besoin pour être hyper performant.
À propos de ce que vous me disiez tout à l'heure sur le commerce de l'industrie, en fait, est-ce que ça devient aussi difficile de rester un petit indépendant par rapport à l'achat du café lui-même, pour acheter la matière première?
Pas forcément, non. Dans le sens où il y a quelques acteurs énormes qui se partagent le marché,
fonctionne comme un système de bourse, mais les prix ne varient pas vraiment en fonction des quantités qu'on veut obtenir. Donc ça, on joue sur un peu d'égalité. Après, effectivement, on a une voie qui portera beaucoup moins selon qu'on achète 5 tonnes par année ou 50 tonnes par semaine. En fonction de spécialités qu'on pourrait demander. Typiquement, il ne faut vraiment pas se tromper pour ces commandes parce qu'on ne peut pas faire de petites livraisons. Deux sacs de café de 60 kg, on ne trouvera personne pour nous les livrer. C'est minimum une palette.
Il y a combien de sacs sur une palette?
10 sacs.
De 60 kg.
Vous parliez de 5 tonnes par année, 50 tonnes par semaine. Vous êtes dans 5 tonnes par année à peu près? Avec différents fournisseurs ou...
Oui. Mais qui au final ne sont que des intermédiaires, donc qui la plupart du temps achètent le même café. C'est facile, le Brésil fait 60% de la production mondiale, donc une énorme majorité qui vient de là-bas. Et on n'a pas tellement la transparence de savoir avec quel paysan on travaille. C'est des coopératives qui elles-mêmes travaillent avec plusieurs paysans qui revendent le café aux gros importateurs. Après, j'essaye de développer des circuits alternatifs parce que si ça passe par la bourse, ça permet la spéculation aux gens qui travaillent dans la finance. N'amène strictement rien en termes de plus-value au produit. Donc je trouve intéressant de court-circuiter, mais de travailler par petite quantité, c'est très compliqué en termes de prix, parce qu'on a évidemment des coûts de transport par kilo qui sont 10, 20, voire 30 fois ce que les gros importateurs ont. Donc ça pénalise beaucoup le consommateur finalement. Même si on a des arguments dans le sens d'une meilleure rétribution et d'un contact plus direct avec le producteur. Il y a bien des gens qui sont sensibilisés à tout ce qui est commerce équitable, qui voudront volontiers mettre un petit peu plus, mais c'est pas la majorité. Il y a quand même beaucoup qui regardent au prix au kilo. Sans forcément voir ses avantages ou pas.
Donc le client qui vient chez vous, il sait.
Mais je dirais que si la personne qui vient chez nous, qui passe la porte, elle est déjà convaincue de ce qu'elle vient faire. On n'a pas des gens qui arrivent par hasard. Si, ça arrive, mais c'est occasionnel, voire même anecdotique. Et je dirais les gens qui sont sujets à influence par les campagnes marketing des gros ne vont de toute façon pas trouver leur compte dans ce qu'on fait. Parce que les codes sont différents, parce que les emballages ne changent pas tous les 6 mois, parce qu'on n'a pas un euro renouvellement de l'assortiment tous les 2 mois. Et pour ça, d'après certains consommateurs, c'est une faute. Ça bouge pas, ça bouge ou pas, c'est juste cette impression, ça bouge. Changer le packaging. Mettre la même chose dedans, le vendre un peu moins cher, mais retirer un tiers de la quantité finale. C'est des choses qui servent à rien. Si ce n'est donner l'illusion d'un truc qui est mouvant, et qui n'a jamais été aussi stagnant. Quoi.
On dirait que vous parlez du chocolat caillé relooké par Jean Nouvel.
Par exemple, un très bon exemple.
C'est tout à fait ça.
ce cinglant échec. Hein. Là, le consommateur, il a dit stop. Hein.
Ouais. Ils ont fait machine arrière. Ouais. Comme quoi, Coluche avait raison. Il disait et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus.
Il y a tous les enjeux que vous évoquiez pour le café.
Sous-jacent.
Sous-jacent. Mmh.
Mais qui demande, je dirais quand même, une démarche de compréhension active de la part du consommateur. Parce qu'un vendeur qui argumente en faveur de ses produits, on part d'office perdant. C'est pas quelque chose qu'on... Bah, il y a une phrase de Christian Bobin qui est fantastique. Il dit on peut pas expliquer quelque chose à quelqu'un qui l'a pas déjà compris. Il peut que donner des informations à une personne qui se pose déjà des questions d'elle-même. Et plus j'avance dans la vie de commerçant, plus je me rends compte que c'est la pierre angulaire du problème. Ça.
Il est bientôt prêt à mettre en sac celui-là.
Oui, absolument. Parce qu'il soit quand même bien froid. Hein.
Bien froid, mais... Donc vous avez... La pratique, évidemment, vous permet de savoir qu'il n'y aura pas collision de fournée.
Absolument. Ouais.
Parce que ça peut être très gênant.
Tout à fait. Ouais, ouais.
C'est les erreurs qu'on fait au début, ça.
Après, je dirais que c'est relativement bien fait dans le sens où la quantité maximum de café qu'on met aura un temps de refroidissement moindre que la quantité maximum qu'on pourra mettre.
Voilà. Et puis on a quand même derrière des concepteurs de ces machines qui ont un tout petit peu aussi pensé le problème.
Ah mais c'était des génies les gens qui ont fait ça. C'était des amoureux, c'était des passionnés, c'était des gens qualifiés. C'était... Ah j'ai pas assez de mots pour...
Au fond c'est une histoire d'artisanat de A à Z on peut dire.
Ouais. Alors absolument.
C'est génial.
Non, c'est un côté hypnotisant. Il y a des après-midi ici, si je lève pas la tête, je me rends pas compte du temps qui passe. Je suis hors temps en faisant ma machine. Hein. Que ce soit tous les sens, hein, l'odeur, les yeux, la chaleur.
Il y a des gens des fois qui viennent regarder les gens, regardent.
Et pas plus tard que la semaine passée, ceux qui passaient, est-ce que je peux venir avec ma femme et mes filles parce que vraiment ce que vous faites c'est beau, vous avez un vrai métier, alors je veux leur montrer ce que c'est. Enfin, ils me chantaient les louanges. Ben, c'est sympathique, ça fait chaud au cœur. Mais se lancer dans le petit commerce aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se retrouver sur les manches. Il ne faut pas avoir des envies trop grosse en termes de confort matériel, je dirais. Et ma maman a pu se lancer à Pontarlier parce qu'elle avait une base relativement solide avec l'entreprise ici. Ce qui nous a permis de, par exemple, de donner de la marchandise en attendant qu'elle puisse faire ses rentrées pour les régler. Ouais. Chose qu'un petit qui a ses 30 jours de fournisseur se trouverait coincé quoi, au bout d'un moment.
Votre grand-mère a des souvenirs clairs de cette...
C'est une Bible vivante.
Pourquoi il crépite comme ça?
C'est le... Parce que le grain, il prend 20 à 30% de volume au retissage. Il y a plusieurs couches, comme un oignon un peu. Puis les couches extérieures, elles sont soumises à tension, donc elles explosent en fait. Ce qui fait le petit crack. D'ailleurs, on voit les grains qui ont crépité, ils ont une partie au moins qui se détache en général juste au centre. Hein. Un petit rond qui saute.
Cette huile, ce grain crépite contrairement aux autres parce que c'est une autre sorte.
Il est un petit peu plus rôti, donc il a pris plus de volume.
D'accord.
On dit normalement il y a deux crépitements, encore que ça dépend du taux de séchage de l'année auquel il a été récolté. Il y en a un premier qui est un peu sourd, genre essoufflé. Le deuxième craquement de la côté extérieure qui est plus sec, genre popcorn un peu comme ça.
C'est tout à l'heure qu'on a entendu.
Ça c'est le deuxième.
Ouais.
Le premier il se fait quand il entre dedans. On l'entend quasiment pas à moins de tomber dans l'oreille.
Le torréfacteur en haut, là, à Crissier, lui, vous le situez dans une échelle de proportion. Lui, il est dans l'industriel ou le semi-industriel ?
C'est un petit industriel. Qui c'est qui serait proche de nous dans la manière de procéder ? À Neuchâtel, au Moka ? À B, il y en a un qui s'est installé récemment aussi. À Villeneuve, il y en a un qui travaille avec uniquement les restaurateurs. La semeuse, c'est un des rares qui s'est agrandi.
Bonjour monsieur.
En gardant les méthodes. Salut Jean.
Bonjour monsieur.
Ça va ?
Oui, ça va.
Tout bien, merci.
Vous êtes bien à la maison ?
Ouais. Merci bien,
toi aussi. Hein.
A plus.
Bien, voilà, un T4 pour aujourd'hui.
Ça marche.
Donc, on aille.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
C'est Movica.
Salvador.
Tout à fait.
Avec plaisir. Vous pouvez laisser là.
Bonjour.
Alors, je vous laisse. Comme ça.
Bon, vous avez,
très bien. Oh, merci beaucoup, alors. Hein.
Merci à vous.
Bonjour. Au
revoir. Au revoir.
Du café qu'on essaye de développer par ces circuits alternatifs,
ben voilà.